Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Alep où la rébellion s'effondre dans l'est de la ville syrienne, précipitant les civils dans l'horreur. New York, où Donald Trump continue d'étoffer son équipe, la Crimée avec Moscou qui renforce sa flotte, tandis que Kiev, pour l'Ukraine, teste des missiles. Et puis la Havane, semaine d'adieu à Fidel Castro, était-il un modèle, était-il un dieu vivant ou un tyran? C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et j'accueille Jean-Dominique Merchet. Bonjour Jean-Dominique.
Bonjour.
Journaliste spécialiste des questions de défense dans le quotidien L'Opinion et qui anime son blog, toujours bien regardé, bien informé, Secret Défense. Philippe Moreau-Desfarges, bonjour.
Bonjour Fabrice Lundy.
Chercheur à l'IFRI, Philippe Moreau-Desfarges, qui vous propose, alors que Noël se profile, bien sûr, la géopolitique pour les nuls, l'histoire du monde pour les nuls. Voilà quelques-unes des bonnes idées pour Noël, pour le réveillon. Alors, je vous le disais, donc, à la une, Alep, hein, la grande ville du nord de la Syrie, dont les quartiers sont pilonnés, sont bombardés maintenant depuis des mois, sans relâche, par l'armée syrienne et ses alliés russes ou iraniens. Est-on à un tournant? Puisque les rebelles islamistes subissent apparemment des revers sérieux depuis le début de la semaine, cédant une part non négligeable de terrain au profit des forces de Damas. Et parallèlement, on voit des dizaines de milliers de civils qui tentent de quitter l'enfer, se retrouvant à découvert, sous les bombes, les tirs d'artillerie, un cimetière. Voilà ce que disait ce responsable de l'ONU.
With the parties. Nous supplions les belligérants de faire tout leur possible pour protéger les civils et permettre l'accès à la partie assiégée d'Alep Est avant qu'elle ne devienne un gigantesque cimetière.
Alors, Jean-Dominique Merchet, va falloir nous expliquer déjà d'un point de vue militaire ce qui s'est passé cette semaine, puisqu'on parle de revers sérieux, peut-être le plus gros revers pour les rebelles islamistes donc depuis le contrôle d'une partie de la ville depuis 2012. Est-ce que la bataille a un tournant? Qu'est-ce qui s'est passé exactement depuis quelques jours?
Oui, le week-end dernier, il s'est passé quelque chose de très important. Donc, il y a une poche qui est isolée depuis quelques mois à Alep Est, qui est encerclée. Toutes les tentatives pour briser cet encerclement ont échoué, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Et là, durant le week-end dernier, les forces syriennes de l'armée de Bachar ont réussi à d'abord à couper en deux cette poche, et ensuite toute la partie nord de la zone qu'ils avaient coupée en deux s'est effondrée, et donc la population fuit, et les rebelles ont quitté cette zone. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus que la partie sud de la poche qu'ils tenaient depuis 2012, lorsqu'ils avaient tenté de conquérir la ville d'Alep et échoué à la conquérir. C'est ça l'élément important, c'est qu'en fait, les rebelles n'ont jamais réussi à conquérir la ville d'Alep, contrairement à ce qu'on dit, on parle toujours d'Alep.
D'Alep, ils ne tiennent l'est d'Alep, hein, bien sûr,
que des quartiers périphériques et populaires de la ville, la banlieue en quelque sorte.
Mais alors, ça veut dire quoi que le cours de la guerre en Syrie, il a changé cette semaine? C'est un tournant parce que ça montre quoi? Qu'il n'y a pas eu de succès militaire donc des rebelles face à l'armée de Bachar al-Assad?
Oui, les rebelles sont en train de perdre la guerre, clairement. Ça va durer encore longtemps, sans doute, parce qu'il n'y a pas... Alep, c'est très symbolique, Alep Est, c'est très symbolique, mais il y a d'autres régions qu'ils contrôlent encore. Ce qu'on voit, c'est que les rebelles modérés ont perdu au sein de leur propre camp. Aujourd'hui, ce sont surtout des djihadistes ou des salafistes qui sont au combat, et même ceux-là, vraisemblablement, sont en train de perdre par rapport... contre l'armée syrienne soutenue par les Russes, par le Hezbollah, par les Iraniens, parce qu'au fond, ils n'ont plus le soutien de quiconque, notamment ils n'ont plus le soutien des Turcs.
Justement, et quelque part aussi, tiens, Philippe Moreau-Desfarges, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Dominique Merchet, est-ce que c'est une défaite également pour ceux qui soutenaient ces rebelles, les Turcs, les Saoudiens, les Qataris?
dans une certaine mesure, attendez, ce qui se passe, il faut revenir un peu à un tableau général. C'est bien une guerre civile. Et Bachar al-Assad et son allié russe et son allié iranien sont décidés à gagner cette guerre. En outre, il ne faut pas oublier, Bachar al-Assad est probablement très fatigué. Les forces de Bachar al-Assad sont très fatiguées. Donc, il veut essayer de capitaliser sur cette victoire. Alors, est-ce que ça sera un tournant? On verra plus tard. Alors, est-ce que c'est une défaite pour les alliés, disons, pour les sunnites, schématiquement? Probablement, mais la guerre n'est pas terminée. Elle va être très, très longue. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que si, vous voulez, si on veut un tableau général, on voit bien qu'il y a, au fond, deux guerres civiles impliquées. La guerre civile syrienne et la guerre civile irakienne. Et que dans cette guerre civile irakienne, il y a un acteur surprenant dont on parle trop peu mais qui est décisif, c'est les Kurdes. Et puis, autour de cela, il y a toute une série de puissances régionales qui ne sont pas des puissances très fortes qui se bagarrent. Mais je dirais, le combat est loin d'être terminé.
Les Kurdes, hein, Jean-Dominique Merchel, et les Kurdes syriens qui semblent profiter justement de la défaite des rebelles pour s'installer, s'implanter dans un certain nombre de quartiers.
Oui, alors, les Kurdes, dont en Occident et en Europe on fait des héros, sont en pratique les alliés de Bachar el-Assad, aujourd'hui en Syrie. Clairement, il y a une coordination militaire entre les forces kurdes qui tiennent un quartier au nord d'Alep et les forces de Bachar el-Assad. Donc, effectivement, les choses sont souvent beaucoup plus compliquées que de dire, d'un côté, il y a les sunnites, de l'autre côté, il y a les kurdes, il y a les bons, il y a les méchants. Par exemple, on parle des sunnites, mais on voit, par exemple, que l'Égypte, grand pays arabe sunnite s'il en est, aujourd'hui, soutient Bachar el-Assad. Et les Russes. Avec les Russes. Donc on voit bien.
Il a donné lieu à une petite explication cette semaine entre le général Sissi, le maréchal Sissi et
Poutine. Et les Saoudiens qui le financent, voilà. Et qui sont absolument fous de rage de voir le
Poutine demandant clairement en disant voilà, c'est quoi tes intentions vis-à-vis de Bachar.
Tout ça est. On a toujours tort à vouloir trop simplifier les choses. Alors on doit simplifier les choses pour des raisons de pédagogie, mais en même temps, on est sur un théâtre où on ne peut pas dire il y a d'un côté les sunnites, de l'autre les chiites, il y a d'un côté les bons, de l'autre côté les mauvais. Tout ça, c'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça.
Un mot, puisqu'on parle de victoire de Bachar al-Assad, il va en faire quoi de cette victoire éventuelle?
Ah ben, il veut garder le pouvoir. Si vous voulez, c'est clair qu'aujourd'hui, la partie, c'est derrière Bachar al-Assad, il y a la Russie et l'Iran. Et la Russie et l'Iran veulent obtenir quelque part comme une re-reconnaissance de Bachar al-Assad. C'est ça qu'ils veulent. Ça ne les empêchera pas d'abandonner plus tard Bachar al-Assad. Mais pour le moment, Bachar al-Assad, c'est leur carte. Et ils veulent une victoire de Bachar al-Assad en Syrie. Non. Quant aux Kurdes, qu'est-ce qu'ils veulent, les Kurdes? Ils veulent un État. Ils veulent un État. Donc l'alliance entre Bachar el-Assad et les Kurdes de Syrie, c'est une alliance précaire. Hein. Et du savoir, on peut très bien imaginer une alliance entre Daesh et les Kurdes, parce que l'un et l'autre ont un intérêt commun, qui est le changement des frontières du Moyen-Orient. Enfin, disons, pour le moment, Daesh est dans une telle situation qu'il n'est plus un acteur pertinent.
Juste un mot sur le matériel utilisé par les Russes contre les rebelles, Jean-Dominique Merchet. J'ai l'impression que la Russie a déployé ce qu'il y a de mieux actuellement dans le catalogue, non?
Oui, enfin, la Russie fait essentiellement des frappes aériennes. Et elle soutient les troupes au sol, sans doute avec des conseillers. Au fond, elle fait un peu ce qu'on fait en Irak à la bataille de Mossoul. C'est-à-dire qu'elle est dans les airs, elle tire, et elle a des conseillers qui sont là pour soutenir les forces alliées sur le terrain.
Elle teste du matériel, du nouveau matériel.
Oui, alors on voit quand même que la Russie est redevenue un acteur militaire de premier plan. C'est clair que son déploiement militaire l'année dernière a impressionné tout le monde, et ça a été, comment on dit en excellent français, un game changer. Ça a changé la situation sur le terrain. Voilà, c'est un acteur militaire crédible.
Oui. Mais, attendez, ça ne doit pas faire oublier une chose très importante, Philippe. Que les Russes n'envoient pas de troupes au sol. Donc, quelque part, la Russie de Poutine a une certaine prudence. Elle veut cogner au maximum, mais ne pas s'engager directement sur le terrain. Et on voit bien que l'une des difficultés de cette guerre, c'est que les adversaires sont tous pas très forts. Enfin, ils sont pas suffisamment forts pour avoir une victoire totale.
Alors, l'exode des civils, je vous en parlais, privés de soins, d'eau, de nourriture, de médicaments, hein, ils tentent d'échapper, évidemment, au siège, à l'enfer. On parle des pires journées, justement, du siège. L'ONU se dit inquiète, on l'a entendu. La France s'est dit préoccupée. D'ailleurs, le maire de Alep-Est, il était reçu cette semaine au Quai d'Orsay à Paris.
250 000 civils à Alep sont menacés de mort. Ils poussent un cri à la face du monde, au nom de l'humanité. Laissez les civils sortir de la ville. Aidez les civils. Protégez les civils.
Bon, d'accord, mais comment on fait justement, comment on leur vient en aide, qu'est-ce qu'il faut, l'expérience des corridors humanitaires, elle a tourné court.
Il y a une vraie question, là. Il y a une vraie question politique. Est-ce que les gens qui tiennent militairement la vie, enfin le secteur de Alep Est, veulent que les civils sortent ou pas? Clairement non. Si les civils s'en vont tous, il n'y aura plus que quelques milliers de combattants, et là, la ville pourra être rasée. Donc, de toute façon, il y a avoir des civils avec soi, c'est une sorte de bouclier humain, et ça permet de faire des déclarations disant nous on massacre les enfants et voilà, c'est malheureusement aussi simple que ça.
Et les différentes tentatives à l'ONU justement pour mettre fin à ces combats, elles ont toujours échoué. Philippe Moreau-Desfarges, la Russie met toujours en avant son veto.
Mais exactement, parce que l'ONU n'a de volonté que si le Conseil de sécurité a une volonté. Ouais, ouais. Or, au sein de ce Conseil de sécurité, il y a la Russie. Or, la Russie a un objectif précis, être reconnue comme un acteur majeur au Moyen-Orient, et notamment pouvoir montrer son pion, Bachar el-Assad. Et il est probable que dans les contacts entre Donald Trump et Vladimir Poutine, très vite viendra la question de Bachar el-Assad. Et je crois que le grand problème de l'Occident, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Bachar el-Assad? Est-ce qu'on continue à le traiter en ennemi ou est-ce qu'on l'en prend comme partenaire? Étant donné que c'est, vous savez, comme disait Churchill, parfois il faut souper avec le diable, si possible avec une non-cuillère.
Alors, on va pas oublier Mossoul, quand même, la grande ville du nord de l'Irak. Cette fois, on traverse la frontière où... Oui, ce qui existe toujours. Enfin, bon, voilà, on verra bien ce qu'il en est de cette frontière. La bataille de Mossoul, qui a démarré, donc, mi-octobre, hein, c'était le 17 octobre. Jean-Dominique Merchet, vous l'expliquiez dans l'Opinion cette semaine, des combats plus difficiles que prévu, avec des troupes irakiennes qui subissent de lourdes pertes face aux attaques kamikazes de l'État islamique. Oui, la fameuse Golden Division, les troupes d'élite, hein, qui prend des coups sévères et apparemment, personne n'est là pour prendre la relève.
Voilà, c'est tout le problème qu'on a dans ces guerres. C'est-à-dire que ça fait un mois, quasiment jour pour jour, que la bataille dans la zone, dans la ville de Mossoul a commencé. Et il y a au fond une seule unité militaire irakienne qu'on surnomme la Golden Division, la division d'or, qui sont des forces spéciales pour aller vite, qui a été formée pour ce type de combat. Ils ont, au cours du mois dernier, d'après les chiffres qu'on m'a communiqués, perdu, en morts et surtout en blessés, quasiment un tiers de leur effectif de départ. Donc ils sont extrêmement... Toute unité militaire qui perd un tiers des effectifs, il faut la relever. Il faut la retirer, l'envoyer à l'arrière et en remettre une autre, le temps qu'elle se reconstitue. C'est ce que tout on a fait dans toutes les guerres. Le problème, c'est qu'il n'en a pas d'autres pour l'instant. Et donc, on va dans un... on voit bien que cette offensive dans la ville marque le pas. Ils ont progressé d'environ 3 kilomètres à l'intérieur de la cité, et il leur en reste au moins autant pour aller jusqu'au fleuve. Ouais. Donc, voilà. Mais ça va quand même se passer. Mais là, on est dans un moment difficile.
Et les Irakiens ne veulent pas prendre le risque de dégarnir Bagdad aussi, hein, justement, alors, parce que faire venir des troupes fraîches, ça voudrait dire, eh ben voilà, on affaiblit quelque part la protection.
Voilà, on peut pas non plus aller trop dégarnir la capitale pour faire la bataille de Mossoul. Voilà.
Mais Philippe Moreau-Desfarges.
Derrière la réalité militaire, il y a un problème politique, c'est que le gouvernement irakien, le gouvernement de Bagdad, s'est comporté comme un gouvernement chiite, quasiment en guerre avec les sunnites, enfin les descendants de Saddam Hussein. Et là, on voit bien que l'un des problèmes de la libération de Mossoul, c'est que l'armée irakienne, c'est une armée quelque part chiite, donc une armée peut-être importante, mais qui pose... Il y a un véritable problème politique sur l'avenir même de l'Irak.
Et le problème, c'est que l'armée irakienne ne peut pas venir taper plus fort, hein, même s'il le voulait. Il y a aussi des civils à Mossoul. On revient évidemment sur le sujet précédent, Alep. Juste un mot, Jean-Dominique.
Il y a aussi des civils, et il y a une discussion très forte chez les chefs, entre les chefs militaires et les chefs politiques irakiens, savoir s'il faut demander aux civils de quitter Mossoul ou de rester sur place. Jusqu'à présent, ils ont dit vous restez là, et les militaires commencent à dire écoutez, ce serait bien qu'ils s'en aillent pour qu'on puisse taper plus fort. Mais s'ils s'en vont, ça va faire une vague humanitaire.
Bref,
on est dans ce moment compliqué.
On reste dans la région quand même, en partie, hein, puisqu'on en a beaucoup parlé sur BFM Business. La réunion de Vienne de l'OPEP mercredi, elle s'est déroulée sur fond de rivalité entre l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, bien sûr, et au-delà avec la Russie, hein, la Russie, premier producteur mondial, qui n'est pas membre de l'OPEP, vous le dites très justement, Philippe. Accord historique pour limiter la production, c'est une première depuis 8 ans. Et c'est Riyad qui va supporter les plus fortes baisses
Bagdad aussi dans une moindre mesure, Téhéran obtenant gain de cause pour accroître sa production, pour profiter de la levée des sanctions occidentales. C'est une vraie partie de poker entre tous ces pays finalement.
Oui,
Philippe
oui.
Moreau-Desfarges.
Alors, d'abord, attendez, cet accord sera-t-il appliqué? Les accords de l'OPEP sont toujours historiques. Ils sont
c'est toujours bien d'être prudent.
Non. Alors, ce qui est intéressant, c'est la position de relative faiblesse de l'Arabie Saoudite. Et c'est vrai que l'Arabie Saoudite...
C'est le perdant de l'histoire?
Oui, ben, n'exagérons rien. Disons que la Téhéran a un peu gagné, mais enfin, à nouveau, comment appliquera-t-on l'accord? Mais disons que l'Arabie Saoudite est en position de faiblesse pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le marché du pétrole n'est pas bon, la situation financière de l'Arabie Saoudite n'est pas très bonne. Il y a l'enlisement au Yémen.
La guerre du Yémen.
Et puis, il y a ce problème. Je vous dis, c'est vrai que quand on compare l'Iran et l'Arabie Saoudite, l'Iran est un pays relativement moderne, avec une société qui existe, avec une certaine vitalité intellectuelle. L'Arabie Saoudite, c'est un pays qui n'arrive pas à se réformer. Et avec un atout, et qui est en même temps un atout et un enjeu redoutable, les lieux sacrés, mais la Mecque et
musulmans.
Les musulmans. Et donc, l'Arabie Saoudite est sur un baril de poule, et donc elle n'était pas très en position de force à l'OPEP.
Jean-Dominique Merchet de l'Opinion, l'Iran est le gagnant de l'accord de Vienne?
Il faut être, je pense, effectivement très prudent, comme le dit très bien Philippe. En même temps, vous avez raison d'insister là-dessus, la question du prix du pétrole est une question essentielle, parce que vous avez des pays qui ne vivent que du pétrole. La Russie, l'Arabie Saoudite, l'Iran,
le Venezuela,
C'est pas rien dans le monde d'aujourd'hui, ces pays-là. Donc, à partir du moment où vous avez un pétrole à 20 dollars, à 40 dollars, à 60 dollars, à 200 dollars, ça change totalement la donne. Et donc, effectivement, c'est un des indicateurs les plus importants quand on suit les affaires internationales.
Un mot encore avant de revenir sur les nominations faites par Donald Trump. Cette semaine, on évoquait l'ONU, son impuissance, notamment à Alep. Voilà ce que disait l'ONU, donc, c'était jeudi. Un nettoyage ethnique est en cours dans plusieurs régions du Soudan du Sud. Alors, le Soudan du Sud, c'est un pays qui est indépendant maintenant depuis 2011, et en proie à une guerre civile depuis 3 ans maintenant. On nous parle d'exécutions, de viols, d'incendies de villages perpétrés par les militaires, démenti du président. Jean-Dominique Merchet, il y aura un Rwanda qui se préparait. Un Rwanda, évidemment, allusion au génocide de 94, 800 000 morts.
Oui, ça fait longtemps qu'il y a des massacres épouvantables au Soudan et dans toute cette région.
Avec la région du
dans Darfour, une indifférence à peu près totale des opinions publiques occidentales, notamment françaises. Oui, il y a des conflits qui intéressent, il y a des conflits qui n'intéressent pas. Personne ne s'intéresse au conflit du Sud-Soudan. Personne ne sait d'ailleurs où est le Sud-Soudan. Personne ne s'intéresse au conflit du Yémen, ou quasiment. Personne ne s'intéresse à ce qui se passe dans certaines zones d'Afrique. Voilà.
Donc, en RDC, etc.
Donc, c'est effectivement très important. C'est effectivement très important, mais on constate cette indifférence.
Derrière
Philippe, les horreurs, d'accord ou pas d'accord avec ce que dit Jean-Dominique?
Pas tout à fait d'accord.
Ah bon, pourquoi?
Parce que le Sud-Soudan, c'est un échec majeur de la communauté internationale. Pourquoi? On a séparé le Sud-Soudan du Soudan, en disant il faut que d'un côté les musulmans du Nord soient ensemble et les chrétiens du Sud soient ensemble. Donc on a créé un État comme on a créé le Kosovo, comme on a créé par la séparation. Et le résultat est l'horreur. C'est-à-dire qu'on retrouve comme en Yougoslavie. On retrouve qu'on a fait éclater la Yougoslavie et on a retrouvé des petites Yougoslavies. On a fait éclater le Soudan et on retrouve les mêmes horreurs. Et
là, le Soudan a éclaté, c'était déjà parce que c'était l'horreur avant.
Oui.
Donc, on entérine quelque part.
Oui, ouais.
On a cru trouver une solution, on l'a pas trouvée.
Exactement. Et c'est ça. Et si vous voulez, c'est pour ça que d'une certaine manière, on n'en parle pas parce que on peut être honteux des choix que l'on a fait.
Alors, les États-Unis, donc, pour revenir d'un mot, donc, sur le Moyen-Orient, est-ce que Barack Obama, tiens, Jean-Dominique Merchet, va accélérer, monter en puissance contre l'État islamique avant de quitter la Maison-Blanche, justement, avant de laisser les rênes à Donald Trump, peut-être moins interventionniste, hein?
Non, je crois qu'il n'en a pas les moyens.
Ouais. Hein,
c'est ce qu'on disait à propos de la bataille de Mossoul. On peut pas vous pouvez pas inventer des forces militaires que vous n'avez pas. À partir du moment où il est exclu que l'armée américaine envahisse Mossoul ou que l'armée russe saute sur Alep, voilà, on n'est pas du tout dans ces scénarios. Donc, ce sont les acteurs locaux, les acteurs de terrain, qui font les choses et ils les font à leur vitesse, comme ils peuvent, avec leur méthode. Bon, voilà. Donc, non, on ne va certainement pas vers une accélération, tout simplement parce que personne n'en a les moyens.
Alors, Trump, qui a désigné cette semaine Biden, son futur secrétaire à la défense. C'est une première depuis 1950, puisque c'est un ex-général, James Mattis, qui a quitté l'armée seulement en 2013. Jean-Dominique, qui c'est ce Mad Dog, hein, ce chien enragé, c'est un peu son surnom. Vous y avez consacré un papier sur le site de l'Opinion. Et vous faites le parallèle avec un général bien connu dans l'histoire américaine du XXe siècle.
Oui, je dis même que Mattis, c'est Patton au Pentagone.
Le général Patton.
Il y a quasiment une ressemblance physique, on le voit à l'écran, il y a eu quasiment une ressemblance physique entre le nouveau secrétaire à la Défense et le général Patton. Alors le général Patton, pour les plus jeunes, ils ont un peu oublié qui c'était un général extrêmement, l'un des généraux sans doute les plus brillants de la Seconde Guerre mondiale, mais qui a fait une chevauchée fantastique dans la libération de la France, qui a sauvé la bataille des Ardennes, enfin bref, un héros militaire. Et en même temps, un fou furieux d'extrême droite qui tenait
qui a menacé de son revolver un type qui était malade,
qui tenait des propos qui au fond
un langage fleuri.
Oui, alors un langage fleuri. Puisque effectivement, ça. Il était tout le temps en train de. Il parlait comme un adjudant-chef devant. Ce qui est le cas d'un adjudant-chef d'ancien temps, lorsque les adjudants-chefs insultaient les appelés et tout ça. Bref. Mattis est exactement pareil. Et surtout, alors ce sont effectivement de très bons militaires. Dans ce qu'ils savent faire, mais alors leur sens politique, là, j'ai les plus grandes réserves et les plus grandes doutes.
Simplement, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on ne sait pas encore si sa nomination sera confirmée, parce qu'il y a une loi qui, pour l'instant, interdit à un ancien général de devenir secrétaire à la Défense dans un délai de 7 ans. Là, ça fait seulement 3 ans, comme je le disais. Donc, oui, Philippe.
Ce général Mattis, je pense qu'il est peut-être plus subtil qu'on l'imagine. Et notamment, ce qui m'a frappé.
Espérons-le.
Il a condamné, vous savez, une certaine forme de torture.
L'usage de la torture, alors que Trump avait dit qu'il allait la rétablir.
Exactement. Et là, si vous voulez, ça prouve que c'est un homme quand même qui réfléchit un peu à l'efficacité de certaines méthodes. Donc on verra. Disons, laissons-lui sa chance.
Deuxième général dans l'entourage de Trump, après Michael Flynn, donc comme conseiller à la Défense à la Maison-Blanche.
Futur c'est pas du tout la même chose.
Non, bien sûr.
Mattis est un personnage de grande stature. On verra, il a quand même pris des positions extrêmement radicales, des positions très faucons contre tout ce qu'il considère comme étant les ennemis de l'Amérique, la Russie, l'Iran. Donc il est quand même assez en contradiction avec la ligne défendue apparemment par le président Trump, qui était plutôt une ligne isolationniste. Lui est plutôt on tape très fort. Voilà. Donc on verra ce que ça donnera. Flynn, écoutez, moi j'ai eu un militaire français qui l'a bien connu, de très haut niveau comme lui, enfin même sans doute de plus haut niveau, qui a résumé les choses en un mot. Il m'a dit c'est un dingue.
Bon,
voilà. Alors, j'invente pas cette citation, c'est un dingue. C'est voilà.
À suivre, 7 jours dans le monde. On va se retrouver dans un instant avec Jean-Dominique Merchet, qui est journaliste dans le quotidien L'Opinion, avec Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l'IFRI. Oui, ces tensions autour de la Crimée, donc entre Ukraine et Russes, hein, les Ukrainiens qui viennent tester des missiles, et puis les Russes qui se déploient un petit peu plus avec leur flotte. On verra jusqu'où ça peut aller. À tout de suite, c'est 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
7 jours dans le monde, toujours avec nous, il y a Philippe Moreau-Desfarges, auteur de l'histoire du monde pour les nuls, la géopolitique pour les nuls également en poche. Et puis Jean-Dominique Merchet, qui anime son blog Secret Défense, journaliste spécialiste des questions de défense dans le quotidien L'Opinion. Alors on démarrait, il y a une vingtaine de minutes, 7 jours dans le monde sur BFM Business avec la guerre au Moyen-Orient. N'oublions pas aussi les tensions toujours très vives sur le continent européen. Tenez, cette semaine, coup d'envoi par l'Ukraine de manœuvres militaires inédites, hein, près de la Crimée. La Crimée, annexée il y a 2 ans par la Russie, avec des exercices, avec des tirs de missiles. Et en riposte, eh bien, la Russie plaçait ses forces navales en état d'alerte. Jean-Dominique Merchet, c'est l'Ukraine qui a pris l'initiative, qui a dégainé en quelque sorte. Pourquoi elle fait ça, l'Ukraine ?
Vous savez, vous avez au moins deux acteurs, parce que la Russie et l'Ukraine, et il y a aussi les indépendantistes de la région du Donbass, qui ont sans doute en partie leur agenda propre, qui n'ont pas du tout envie de se mettre ensemble, de se mettre d'accord. Donc oui, ça n'a. On a essayé. Quand je dis on, c'est la France et l'Allemagne dans ce processus de Minsk.
Bien sûr, on va y revenir justement.
Essaie de calmer le jeu. Mais manifestement, les acteurs locaux n'ont pas envie de calmer le jeu. Et donc, à un moment, vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous avez des gens qui ont décidé. Ils ne sont pas dans la sortie de crise. Ils ne sont pas dans une logique de sortie de crise. Ni les Ukrainiens, ni vraiment les Russes, ni les Russes, ni certainement pas les gens du Donbass. Donc oui, il y a des tensions.
Mais quand l'Ukraine vient tester des missiles quasiment au bord de la Crimée,
oui,
hein,
en même temps,
qui était chez elle il y a deux ans.
En même temps, voilà, la Crimée, juridiquement, c'est un territoire ukrainien, oui, qui a été annexé par le grand voisin. Ah. En violation du droit international, on dira ce qu'on voudra.
Ah ben non,
c'est des choses qui ne se font pas.
Mais,
voilà.
Mais jusqu'où ça peut aller.
Que les Ukrainiens soient pas contents, on peut les comprendre.
Ça n'ira pas très loin.
Philippe Moreau-Desfarges.
Ça n'ira pas très loin. Pourquoi ? La Russie de Vladimir Poutine est déterminée à se faire reconnaître une sphère d'influence. L'Ukraine étant évidemment dans cette sphère d'influence, c'est clair. Et Poutine, regardez sa stratégie au Moyen-Orient et sa stratégie en Ukraine, c'est la même stratégie. Je veux être reconnu comme un grand et comme un égal. Bon. Deuxièmement, l'Ukraine. Cette idée-là n'est plus prise au sérieux. Elle n'est plus prise au sérieux. C'est un État en grande difficulté économique, avec une corruption de grande échelle. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi l'Ukraine fait-elle cette agitation ? Du côté occidental, on ne fera rien. On ne fera rien.
Mais la Russie pourrait riposter ou pas ? Elle a massé des navires, là, tout autour des côtes de la Crimée, notamment son port historique de Sébastopol.
L'Ukraine va s'écraser.
Je pense qu'on est dans de la gesticulation, comme on dit. Voilà. Je pense que après, il peut toujours y avoir un incident qui dégénère, qui bon voilà. Donc c'est jamais bon ce genre de choses. C'est jamais bon.
Philippe. Mais,
Poutine a sa fenêtre d'opportunité. Le changement de présidence aux États-Unis, le passage de Barack Obama à Trump. Ouais. Donc il va exploiter cette fenêtre d'opportunité en disant Bachar al-Assad en Syrie et en Ukraine, je veux faire reconnaître comme cette sphère d'influence. Alors l'Occident pourra dire tout ce qu'il veut, c'est de la vieille politique, c'est de la vieille diplomatie, c'est de la réelle politique. On en est là aujourd'hui, le monde est dans la réelle politique aujourd'hui.
Et vous nous disiez, en parlant à la place de Poutine, je veux être reconnu. Et c'est vrai que, quelque part, Trump et Poutine, apparemment, il y a eu des propos de Trump assez sympathiques vis-à-vis de Poutine. On voit ce qui se passe dans la campagne électorale française avec un François Fillon qui a remporté la primaire de la droite et du centre dimanche dernier, qui encense plutôt Poutine. On voit également la victoire d'Alep qui se profile. Grâce à qui ? Grâce à Poutine. Finalement, il est porté quelque part.
Exactement. Et, il est porté quelque part et Poutine ne fera aucun cadeau. Il ne fera aucun cadeau. C'est-à-dire qu'il va demander à ses amis occidentaux de lui faire des cadeaux à lui. C'est-à-dire reconnaître Bachar el-Assad et en Ukraine, reconnaître que l'Ukraine s'inscrit dans la sphère de sécurité.
Alors, voilà ce qu'il disait justement Vladimir Poutine, c'était jeudi matin, discours annuel devant le Parlement, le président russe.
Nous ne cherchons la confrontation avec qui que ce soit. Ni nous, ni nos partenaires, ni le monde entier n'en profiterait. À la différence de quelques-uns de nos collègues étrangers qui s'opposent à la Russie, nous ne cherchons pas d'ennemis. Nous avons besoin d'amis. Mais nous ne permettrons à qui que ce soit d'enfreindre ou d'ignorer nos intérêts.
Voilà, il ne cherche pas la confrontation, il veut des amis. Oui,
évidemment, parce que la Russie, quelque part, elle est faible. Jean-Dominique Mercier en a parlé à propos du pétrole. Donc, quelque part, il est dans une stratégie défensive, parce qu'à ses propres yeux, l'Ukraine, c'est pas agressif. L'Ukraine, c'est rétablir la sphère naturelle d'influence de la Russie dans cette partie du monde. Donc oui, il est très cohérent dans son discours. Et à nouveau, je le répète, il a une fenêtre d'opportunité, il va vouloir l'exploiter.
Justement, pour continuer ce que disait Jean-Dominique Merchet il y a un instant, c'est vrai que cette initiative, en tout cas, ces mouvements de bras, de muscles de la part de l'Ukraine interviennent au moment où il y avait cet échec d'une nouvelle réunion du fameux groupe de Minsk, à Minsk, la capitale du Bélarus, avec les Allemands, avec les Français, avec les Russes, avec les Ukrainiens. Discussions qui ont échoué parce qu'il reste toujours des accrochages sur la ligne de front dans le Donbass. Tiens, Jean-Marc Ayrault, voilà, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il était avec son homologue allemand.
Donc il y a encore énormément de travail à faire, mais cette méthode est la bonne. Ici, nous avons pu constater aujourd'hui que même si c'est difficile, le dialogue n'est pas rompu. Nous sommes là pour dire une conviction. C'est que les accords de Minsk, c'est la voie de la négociation, c'est la voie du dialogue, c'est la seule voie possible pour sortir de cette situation qui est effectivement dramatique pour notre continent.
Alors, à vous deux, Philippe et Jean-Louis, où est-ce que résident encore les blocages? Est-ce que Russie et Ukraine se durcissent?
Ils résident dans le déséquilibre des forces. Comment l'Allemagne et la France peuvent-elles être crédibles face à la Russie? Ce que ne dira pas Poutine, messieurs les Européens, premièrement, les États-Unis sont en train de changer d'attitude vis-à-vis de vous. Ouais. Et deuxièmement, quand je vous regarde, vous bagarrez entre vous à propos des migrants, je ne vous prends pas très au sérieux. Donc, les accords de Minsk, d'accord, mais les accords de Minsk à mes conditions.
Avec des dirigeants étrangers affaiblis, Madame Merkel va se lancer dans une campagne, François Hollande va disparaître depuis qu'il a annoncé qu'il ne se présentait plus.
Il y a peut-être, je suis totalement d'accord avec ça. On peut peut-être même ajouter le fait que, au fond, les Russes ne rêvent vraiment que de discuter qu'avec les Américains. C'est leur seul objectif. Discuter avec Merkel et Hollande, ça va.
Être reconnu, voilà ce que disait Philippe à propos de Poutine.
Être un partenaire sur les affaires stratégiques, considéré comme un partenaire égal avec les États-Unis. Ils n'ont pas du tout digéré cette remarque assez judicieuse d'ailleurs d'Obama qui avait dit la Russie c'est une puissance régionale. C'est vrai, la Russie est une puissance régionale. Mais
c'est pas une puissance mineure.
Mais c'est une puissance importante. Là où elle intervient, ça fait mal. Donc il faut en tenir compte. Donc ils veulent revenir un des grands avec. Et ils veulent discuter avec les Américains, pas avec nous.
Jean-Dominique Merchet, tension également, on l'a vu, dans les pays baltes cette semaine, la Lituanie qui installe des radars, la France qui va envoyer 300 soldats et des chars Leclerc en Estonie dans le cadre de l'OTAN. La menace, elle est réelle là-bas aussi?
En tout cas, les gens dans les pays baltes ont très peur. Clairement, ils ont une histoire compliquée avec la Russie, ils ont été longtemps dans l'Empire russe, ils ont eu une courte fenêtre d'indépendance entre les guerres, puis ils ont été de nouveau réannexés par... Donc ils ont très peur, comme les Polonais. En même temps, méfions-nous, parce que la situation en Europe de l'Est est très contrastée. Il y a à la fois des pays très anti-russes, les Baltes, les Polonais, et des pays qui sont pro-russes aujourd'hui. On compare souvent la Pologne et la Hongrie en disant c'est des gouvernements ultra-conservateurs, réactionnaires. Sauf que l'un, les Polonais sont très
hostiles.
Et Orban, et lui,
discute avec Poutine. Il avait reçu
les Bulgares,
l'an dernier.
Les Bulgares et les Moldaves viennent d'élire des présidents pro-russes. Les Slovaques sont plutôt pro-russes. Donc on voit bien que le paysage est encore une fois pas aussi caricatural que ça. On peut pas dire l'Europe de l'Est a peur des Russes, une partie des Européens de l'Est ont peur des Russes.
Ce que vient de dire très justement Jean-Dominique Merchet affaiblit encore plus la position de la France et de l'Allemagne à Minsk. Parce que monsieur Poutine peut leur dire, mais messieurs les Européens,
vous
regardez, au sein même de l'Union Européenne, moi j'ai des amis, alors voilà.
Est-ce que la Russie aussi n'est-elle pas en train de préparer l'offensive sur un autre front, un nouveau front? C'est le patron du renseignement allemand qui expliquait cette semaine qu'il craint des attaques informatiques en Europe lors des scrutins de 2017, en France, en Allemagne notamment. Jean-Dominique Merchet, qu'est-ce qui lui permet d'affirmer, de tenir de tels propos?
Alors, ce qui motive ça, c'est ce qu'on a soupçonné, les soupçons d'intervention russe dans la campagne américaine.
Avec le Parti démocrate avec qui aurait été attaqué, les sites du Parti démocrate.
En réalité, oui, vraisemblablement, il y a une activité russe en matière de cyberattaque. Sauf que, pour l'instant, rien n'a jamais été prouvé. Voilà. Oui, ils sont actifs. Je pense qu'ils ne sont pas les seuls à être actifs. Voilà. Je pense que nous aussi, Français, Américains, Allemands, avons des services de cyberattaque.
Les deux derniers livres blancs de la défense avaient mis en avant justement la nécessité de se réarmer dans la cyberguerre.
Voilà. Donc effectivement, c'est à nous. Alors tous les services, effectivement, insistent beaucoup là-dessus parce que ça coûte très cher. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de crédit, beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il faut convaincre les entreprises d'investir là-dedans. Bref, donc il y a toujours un peu de communication autour de ça. Après, la réalité, savoir si les Russes vont attaquer...
Le week-end dernier, le piratage des sites de Deutsche Telekom, avec 900 000 foyers qui ont pu être interrompus. Et certains y ont vu la patte des Russes. Alors, je ne sais pas si...
Attendez, je pense que la Russie va être très tentée de faire ça. Pourquoi ? La Russie est faible, elle le sait. Elle est fondamentalement faible parce qu'elle vit sur le pétrole. Et Poutine le sait. Donc, ils utilisent, je dirais, les moyens du faible. C'est-à-dire, comme, vous savez, comme le petit garçon qui donne des coups de pied au fort. Et du serveur, les cyberattaques, c'est donner des coups de pied au fort parce que, fondamentalement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. On n'aura pas une nouvelle guerre mondiale pour ça. Parce que, n'oubliez pas qu'à côté de la Russie, il y a un acteur qu'on ne mentionne pas, mais qui est l'acteur décisif. Et bien sûr, c'est Washington, vous l'avez dit. Mais il y a Pékin. Il ne faut pas oublier Pékin.
Simplement, ça sera à quelle fin de faire des attaques contre la France, l'Allemagne, au moment où il y a des élections, des scrutins? C'est quoi? C'est créer de l'incertitude politique? Je cite ce responsable allemand, Jean-Dominique Berger.
Je dois dire que je ne suis pas convaincu par ces sorties. Soit il a des éléments concrets, soit il voilà, donc je sais pas exactement ce qu'il veut dire. Il y a des problèmes, il y a effectivement les cyberattaques, ça existe. Il faut s'en protéger.
Est-ce qu'on est bien protégé? Que comment se profilent les autorités françaises, les autorités
défense? L'agence nationale de sécurité des services d'information, l'ANSSI, qui fait du bon boulot, je pense, parce que je pense qu'en France, on a des gens d'assez haut niveau sur ces affaires. Après, oui, cette déclaration est un peu incendiaire, quoi, de l'allemand. Elle est un peu arrivée comme ça, mais. Mais attendez, j'ai peu de choses.
Les cyberattaques des Russes ne seront pas des cyberattaques du gouvernement russe.
Oui, enfin.
Non,
mais j'en sais rien.
Non.
Le gouvernement n'est jamais très loin de la sphère, de la sphère privée.
La Russie n'est pas très loin de l'Union soviétique. Donc, ils vont utiliser des acteurs entre guillemets privés. Pour lancer. Comme ça, le gouvernement russe peut dire, je ne suis pas responsable de ça. Et malgré tout, ils vont déstabiliser.
Je serais plus inquiet, pour être franc, des cyberattaques possibles venant de la Chine. Parce que, effectivement, ils ont, une logique. Beaucoup plus à mon avis, beaucoup plus agressive. Mais bon, voilà. Encore une fois,
La Chine est un fort.
On grossit en général la menace russe quand on parle de la Crimée, quand on parle des Pays-Bas, quand on parle des cyberattaques, Jean-Dominique Merchant.
On l'a beaucoup grossi durant toute la guerre froide, parce qu'après on s'est la CIA qui avait été construite, absolument financée pour évaluer la menace russe soviétique, a fait son travail remarquablement. Elle a simplement oublié quelque chose, de prévoir quelque chose, c'est que le pays s'est effondré. Donc oui, on grossit toujours, mais c'est de bonne guerre, on grossit toujours la menace pour avoir plus de budget. Ça, c'est vieux comme le monde. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace, mais n'oublions jamais ces petits détails que sur les... Attendez, il y a des sous-marins partout, donc il nous faut beaucoup plus de frégates pour aller les chercher. Très bien, on a compris, on connaît, on nous l'a fait souvent. C'est légitime, ça se passe comme ça, les Russes font la même chose, tout le monde joue ce jeu.
Philippe, un mot.
Oui, c'est vrai, mais n'oubliez pas quoi, dans le face-à-face Est-Ouest de la guerre froide, on a totalement surestimé la puissance soviétique, et notamment c'est vrai que la CIA a fait des études très sérieuses, comme quoi elle montrait que le PNB soviétique, c'était un cinquième du PNB américain. C'est-à-dire que quand les Américains dépensaient 6% de leur budget pour la défense, les Soviétiques devaient en dépendre 4 fois plus. Donc on voyait que ça pesait sur l'Union soviétique. Et d'ailleurs, la fameuse guerre des étoiles qu'avait lancée le président Reagan, l'initiative de défense stratégique...
85.
Et Reagan a pu dire à ses conseillers, mais regardez, j'avais raison, parce qu'ils ont cru à notre bluff, du coup ils ont dépensé de l'argent et ils se sont fatigués.
La réalité, c'est que la Russie est un pays pauvre, dont l'économie ne marche pas. Et donc... le différencier, il est clair.
7 jours dans le monde, qui va reprendre dans un instant. Qui regrettera Fidel Castro? C'est à suivre sur BFM Business.
BFM Business, 7 jours dans le monde. BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et toujours avec Jean-Dominique Merchet, journaliste dans le quotidien L'Opinion et qui anime son blog Secret Défense. Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l'IFRI, auteur de l'histoire du monde pour les nuls. Et dans l'histoire du monde, bien sûr, on a parlé d'un certain Fidel Castro. Dernier voyage cette semaine pour le leader Maximo sur toute l'île. Son urne, posée donc à l'arrière d'une Jeep, a parcouru toute la semaine l'île sur plus de 1000 km pendant 4 jours. Après les nombreux hommages rendus par la population, notamment sur la place de la Révolution à La Havane.
C'est comme si un membre de ma famille était mort. Alors oui, j'emmène ma fille avec moi. Vous savez, elle va grandir dans un monde sans fidèles. Alors c'est important qu'elle soit là pour cette dernière heure.
C'est un devoir de venir ici. Parce que je suis le fils de la Révolution. Tout ce que je suis en tant que personne, je le dois au commandante.
Eh oui, comment peut-on grandir? Comment va-t-on grandir dans un monde sans fidèles? Hein, c'est la grande question qui se pose. Bon, je sais pas, plus ou moins spontanément. Le leader Maximo, il avait 90 ans. Ses cendres, elles seront enterrées ce dimanche au cimetière de Santiago, à côté du mausolée du héros de l'indépendance, José Martí. Philippe Moreau Desfarges, on a vu, on a entendu évidemment beaucoup de choses depuis le week-end dernier. Qu'est-ce que cette semaine d'hommage à montrer à vos yeux? Qu'est-ce que vous en retenez?
Ce que je vais dire va choquer. Allez-y. Du savant m'arrache la bouche. Castro, Fidel Castro, on est d'accord, un dictateur épouvantable, les prisons, etc. Il a incarné la fierté cubaine. Et quelque part, ce que disaient ces Cubains de la rue, c'est très juste. Quelque part, comme quand Staline est mort. Vous savez, on aime son tyran. Son tyran vous donne un sens au monde. Et
Fidel Kim Jong-il également en 2012.
Oui, peut-être. Oui, exactement. Kim Jong-il. Et surtout, je pense à la mort de Staline en 53. Souvenez-vous de la mort de Staline avec les processions. Et quelque part, si vous voulez, on voit très bien pour ces gens-là qui ont souffert, probablement dont des parents étaient dans les camps cubains. Et ben, néanmoins, il incarne une forme de fierté cubaine. On ne peut pas obligé, quand on va à Cuba, que, si vous voulez, l'un des plus beaux hôtels de La Havane, qui est un merveilleux hôtel national, qui l'a construit ? La mafia. Et que Cuba, c'était le refuge de la mafia avant la prise de pouvoir par Fidel Castro. Donc, on peut pas oublier, mais c'est vrai que Fidel Castro reste un horrible tyran, qu'il a écrasé son pays, mais c'est vrai qu'il y a un avant et un après Castro.
Alors, ça sera quoi, justement, son influence, d'ailleurs, aussi bien à Cuba ou au-delà de Cuba, justement, qu'est-ce qui reste de Fidel Castro? Jean-Dominique Merchet.
Alors, je pense que c'est effectivement le dernier grand personnage du XXe siècle qui vient de mourir. Donc il y a effectivement un moment comme ça d'histoire qui se clôt. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que il faut s'interroger sur la politique que les États-Unis ont menée par rapport à Cuba. Cette politique d'embargo, au fond, elle a été totalement contre-productive. Elle a maintenu la dictature. Elle a maintenu... Si ils avaient été plus libéraux, s'ils avaient dit, bon, écoutez, c'est pas grave, t'es un dictateur, mais on va faire du commerce et puis on va faire des échanges, au fond, le régime n'aurait pas tenu. Parce que la puissance, le soft power américain, la richesse, la culture, les échanges économiques auraient changé le régime. Quoi que les communistes cubains en aient et en racontent, ils seraient devenus progressivement des affairistes et des sociodémocrates. L'embargo, la dureté, les a maintenus des communistes purs et durs. Donc il faut réfléchir. Ne soyons pas toujours dans l'opposition brutale. Non. Quand on est riche, quand on est fort, quand on est puissant, on a plutôt intérêt à dire, écoutez, venez chez nous, on va travailler ensemble.
Et d'ailleurs, ailleurs, en Europe, et notamment en France, le week-end dernier, certains ont cru trouver beaucoup de talent à Fidel Castro, les Clémentine Autain, Christiane Taubira, Jean-Luc Mélenchon, ils ont jamais été en prison, parce que il avait su résister aux États-Unis. Mais voilà.
Exactement, il avait su résister. Vous voyez, la crise des fusées, notamment. Enfin, il avait perdu plutôt la partie de la crise des fusées. Mais il savait résister. Et c'est vrai pour revenir à ce que disait Jean-Dominique Merchet, quand on va à La Havane, c'était les voitures qui circulaient à La Havane. C'était les Cadillacs des années 50. Donc la fascination pour les États-Unis était là. Mais c'est vrai que les États-Unis peuvent être extrêmement brutaux. Et c'est vrai que la politique menée à l'encontre de Cuba a été totalement contre-productive. De même, les tentatives d'assassinat qui ont tout échoué étaient ridicules. Et ça, ce sont les États-Unis.
Cuba est un pays où on joue au baseball. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde où on joue au baseball. Absolument. Il y a le Venezuela aussi, je crois, de mémoire. Voilà, donc c'est un pays... C'est un bout d'Amérique.
Et ça va continuer nécessairement. Parce que, bon, c'est quoi l'avenir après Castro ou après la fin des Castro? Parce que Raoul Castro, il a 85 ans à un moment.
Je crois qu'il y aura un vrai problème.
Ouais.
Parce que je crois qu'il y a une fierté. Je crois que Castro, en dehors de Cuba, ne représente plus grand chose. Mais à Cuba, il y a une fierté nationale. Mmh. Et les Américains ne pourront pas refaire de Cuba ce qu'ils en avaient fait
avant Castro.
Et là, ça va être difficile. Et attendez, puis il va y avoir des affrontements très durs entre les Cubains de Floride et les Cubains de Libye. Et là, ça va être une bagarre extrêmement dure pour le pouvoir.
Ce que Obama a fait, il a bien fait de faire ça, d'ouvrir, comme il a bien fait avec l'Iran. Voilà, il faut réintégrer Cuba dans son espace régional. Alors, c'est vrai que nous, ça nous surprend, moi le premier, la place qu'il tient dans l'imaginaire politique des latino-américains. Mais je pense que c'est ce rapport avec les États-Unis, avec le Yankee, qui est toujours un peu compliqué. Mais il faut... Cuba, c'est, on le voit sur la carte, c'est à côté de la Floride. Ils doivent vivre ensemble. Et l'erreur, ça a été de mettre ce mur...
90 miles, voilà. Exactement.
C'est, voilà. Qui est une forme de mur de Berlin, au fond.
Qui est l'argot, que les Américains ont construit.
Vous connaissez la phrase de...
C'est une erreur.
Vous connaissez la phrase de ce président mexicain qui est terrible. Si loin de Dieu... si près des États-Unis, si loin de Dieu, si près des États-Unis.
Mais justement, est-ce que ces espoirs de changement et ces changements qui vont intervenir, justement, ne vont pas donner lieu à une américanisation de plus en plus forte de l'île? On voit, donc en effet, depuis le réchauffement, 150 000 touristes américains qui sont arrivés depuis le 1er janvier, les liaisons aériennes, les liaisons maritimes également. C'est ça, Cuba?
Oui, un Cuba américanisé. Américain au sens des Amériques. Mais vous savez, les États-Unis eux-mêmes se transforment profondément. Les États-Unis s'hispanisent énormément. Donc on voit bien que tout ça, ces frontières traditionnelles avec le Yankee, cette espèce de protestant blanc, arrogant de d'ancien temps, et des latino-américains un peu révolutionnaires fumant des gros cigares, tout ça c'est fini. Tout ça, ça se mélange. Et donc, voilà.
Vous avez d'accord avec celui de Dominique Merchet. Non, la question qu'on peut se poser face à cette américanisation, est-ce qu'il n'y aura pas un rejet des Américains à un moment donné?
C'est fini pour 7 jours dans le monde. Merci à tous les deux. Merci Philippe Moreau-Desfarges, chercheur à l'IFRI, auteur de La géopolitique pour les nuls, l'histoire du monde pour les nuls. Et puis je renvoie également chacun d'entre vous sur le blog de Jean-Dominique Merchet, Secret Défense, et puis évidemment ses enquêtes, ses scoops dans le quotidien L'Opinion. C'est fini. Merci. Vivement la prochaine fois avec 7 jours dans le monde.
BFM Business, 7 jours dans le monde.